Eh bien, hier, le gouvernement Legault a demandé aux adolescents, aux jeunes adultes qui sont âgés entre 15 et 34 ans de se responsabiliser davantage face à une augmentation inquiétante du virus de la COVID-19 au Québec. Alors, on va faire une offensive publicitaire, entre autres sur Facebook. On avait des principes, là, on disait on ne veut pas acheter de publicité sur Facebook, mais les principes ont une date d'expiration. Je pense que c'est le 1er août, le 3 août. Alors, on va racheter de la publicité sur Facebook. Bonjour, Christian Dubé est le ministre de la Santé. Bonjour, M. Dubé.
Oui, bonjour, M. Lacroix.
Alors, les principes finissent le 1er août, c'est ça?
Ben écoutez, il y a plusieurs éléments pour les réseaux sociaux. Il y a Instagram, on va en considérer plusieurs. C'est sûr que Facebook rejoint beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi. Alors, effectivement, l'engagement qu'on avait pris, c'était de sursoir pour un mois. On regardera la situation, mais je pense que si on veut rejoindre nos jeunes dans un contexte de deuxième vague, je pense qu'il faut prendre tous les moyens pour être au bon endroit.
Bon. Pourquoi les jeunes, à votre avis, ne semblent pas entendre le message?
Ben écoutez, il y a toujours deux personnes dans une communication. Il y a ceux qui font le message et ceux qui le reçoivent. Est-ce que pour nous, au gouvernement, on peut améliorer ou mieux expliquer la situation? Je pense que Mme Guilbeault l'a bien expliqué hier. Les jeunes n'ont peut-être pas encore reconnu qu'ils ont deux rôles. Ils ont un rôle de se protéger eux-mêmes, mais aussi le fait qu'ils se promènent beaucoup et qu'ils sont en contact autant avec des amis, de la famille que de la parenté. Il y a un double rôle qu'on leur demande. Alors, s'ils pensent qu'ils sont invincibles pour eux, on est souvent comme ça lorsqu'on est un jeune adulte. On pense qu'on peut changer les choses puis être capable de résister, c'est une chose. Mais ce qu'on veut leur faire réaliser, c'est peut-être là que le gouvernement doit mieux expliquer les choses, c'est de leur expliquer comment ils peuvent avoir un impact. Puis moi, quand je regarde les phénomènes qu'on a vus récemment dans un camp de jour où un moniteur, sans le savoir, parce qu'il était asymptomatique, peut contaminer 10, 15, 20 jeunes, ben, il faut expliquer l'impact épouvantable que ça peut avoir, même si c'est fait de façon involontaire.
Parce qu'un des arguments qu'on entend souvent, c'est « Ah oui, mais pour nous autres, les jeunes, c'est pas grave. Souvent, on est asymptomatique ou encore on développe pas de symptômes très graves. Donc, ça donne pas grand-chose de se protéger, finalement, ou de faire attention. »
Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut leur expliquer comment on veut se responsabiliser. Puis on se responsabilise pour soi, mais aussi pour les autres. Regardez, on a vu ce qui s'est passé avec le port du masque obligatoire dans le transport collectif.
Ouais.
Vous avez vu les augmentations de réponses qu'on a eues au cours des dernières semaines. Les gens comprennent maintenant, autant pour eux que pour les gens avec qui ils voyagent, parce qu'on le voit lorsqu'on est en transport collectif, il y a une proximité. Alors, je pense que si on explique mieux, et c'est pour ça qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, bien expliquer aux jeunes comment c'est important pour eux d'avoir cette responsabilité double dont on parle.
Bon. Là, vous êtes encore dans l'information puis dans les campagnes publicitaires, mais dans le cas du masque, on a vu des manifestations au cours de la fin de semaine. Il y a eu des scènes vraiment qui étaient un peu disgracieuses,
déplorables.
Là, vous pourriez aller vers des mesures répressives, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. On a besoin de s'assurer que les mesures, comme vous dites, là, qui seraient des amendes, soient applicables. Notre défi avec les forces de l'ordre, avec les agents, c'est de s'assurer que si on met des mesures en place, les forces de l'ordre ou les agents de sécurité puissent les appliquer. Alors, on est dans cette finalisation-là. On discute encore cette semaine dans un conseil des ministres pour être capable d'être bien placé pour donner non seulement un ordre très strict, mais être capable de l'appliquer. On est là-dedans.
Donc, vous allez modifier le décret, c'est ce qu'on comprend.
Ben, si on a besoin de le faire, c'est ce qu'on est en train de faire aussi, c'est en collaboration avec la Ville de Montréal. On est capable avec eux, si on avait une application particulièrement pour l'île de Montréal ou même pour la CMM, de travailler avec leurs inspecteurs aussi. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué à attacher, mais une très belle collaboration avec Montréal. Alors, on va être là-dessus dans les prochains jours.
Bon. J'ai entendu dire hier que vous étiez en train, évidemment, de vous préparer pour la deuxième vague. Là. Le contraire serait étonnant, mais pour vous, les problèmes d'équipement, de protection, de masques, etc., tout ça, c'est réglé. On ne vivra pas ça si jamais il devait y avoir une deuxième vague assez puissante au cours des prochains mois.
Très clair, on ne vivra pas ça. On a pris deux moyens. D'abord, premièrement, on en a acheté beaucoup, autant du côté des gants, des blouses, des masques, les différents types de masques. Mais en même temps, on s'est assuré une fabrication au Québec. Et ça, je pense qu'on peut avoir des ententes avec des fournisseurs externes, mais on l'a vu en temps de crise. Chaque pays veut se protéger. Il y avait des enjeux importants de production avec la Chine. Alors, particulièrement pour les masques, les N95, que les gens connaissent bien maintenant, on va avoir une fabrication québécoise et on va s'assurer qu'il n'y aura pas de manque.
Mais est-ce qu'elle est déjà en fonction, cette entreprise-là, cette usine-là, où on fait des N95?
Au mois d'août. Alors, ils sont en train de préparer pour être prêts à fabriquer et à livrer à partir du mois d'août.
Et ça va se faire où, dans la région de Montréal?
Dans la région de Montréal.
OK.
Alors, il y a un élément important
de
logistique qu'on voulait s'assurer qu'on n'aurait plus d'enjeux avec.
Ils vont être capables de produire combien de masques?
Plusieurs millions par année.
Donc, suffisamment pour approvisionner le Québec au complet?
Tout à fait.
OK.
Et même de pouvoir fournir une partie du Canada s'ils en ont besoin.
Ah oui, OK. On apprenait également avec Tommy Chouinard tout à l'heure que votre fameuse ligne, là, on vous écoute, ça a été très populaire. Il y a eu quoi? Presque 3000 messages qui ont été envoyés par des travailleurs du système de la santé. Et le quart de ces messages-là concernait les conditions de travail qui ont été modifiées par le fameux décret là, qui suspendait ou qui permettait la mobilité de la main-d'œuvre, tout ça. Est-ce que vous allez maintenir ce décret-là en action? On a appris aussi que vous avez peut-être donné des indications pour qu'on lève le pied un peu.
Écoutez, on a fait le décret, l'arrêté 007, là, le fameux décret qui a été décrié. On l'a fait en temps de crise, puis entre autres, qui pouvait suspendre certains droits des travailleurs. On parle de vacances, de déplacements, etc. Et
parce là, que ça, là, quand on parle aux gens du système de santé, tout le monde parle de ça.
Exactement. Ouais. Alors, on était bien conscients. On voulait passer l'essentiel de la première vague, ce qui est passé. On a pu envoyer beaucoup de notre personnel infirmier en vacances. Maintenant, on a demandé aux différents DG des CIS et des CIUS de nous revenir avec des applications beaucoup plus fines, beaucoup plus limitées, et de dire dans quel cas seulement ils pourraient se servir d'un 007 qui serait beaucoup diminué et qui permettrait quand même de satisfaire les employés syndiqués, puis en même temps, s'il y avait un problème dans un établissement particulier, de se concentrer là seulement et non de façon générale dans l'ensemble d'une direction. Alors, on est là-dedans, puis je pense qu'on est en train de trouver, avec les gens du Trésor qui négocient en ce moment la convention collective, comme vous savez, de trouver une piste d'atterrissage là, qui serait convenable pour les deux parties.
Bon, cette fameuse ligne-là, où c'est l'adresse courriel, on vous écoute, là, qui semble avoir été très populaire, est-ce que ça va demeurer? On parle, entre autres, là-dessus, de problèmes de facturation des médecins. Est-ce que c'est vrai que vous avez noté ça?
Oui, moi, je pense que la meilleure chose, c'est de garder la communication avec notre réseau. C'est souvent, je pense, une question de culture. On va travailler beaucoup sur la culture dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis je pense que d'avoir l'ouverture aux commentaires du réseau, pour moi, là, l'omerta, c'est terminé. Et il faut absolument que les gens puissent nous le dire. Des fois, on n'aime pas les réponses qu'on entend, mais c'est comme ça qu'on va améliorer notre réseau. Puis c'est comme ça qu'on va écouter les gens au cours des prochains mois.
Bon. Et les problèmes de facturation des médecins, c'est quoi ça?
Ben écoutez, il y a des gens qui ont soulevé des enjeux sur le prix qui était payé, par exemple, les médecins spécialistes lorsqu'ils étaient en CHSLD. Tout le monde connaissait bien le dossier. On avait dit qu'on attendait d'avoir fini cette première vague-là. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de ça. Nous, ce qui était important, c'était d'avoir les médecins qui pouvaient soigner les gens quand on en avait besoin. On réglera ce point-là dans les prochaines semaines. Mais c'est évident que tout ce qu'on entend, on en prend compte, puis on prend des décisions au fur et à mesure qu'on avance là-dedans.
Est-ce qu'une personne qui dénoncerait, par exemple, dans les médias, une situation dans un CHSLD ou dans un hôpital ou dans un CIUSSS, est-ce que cette personne-là, si vous réussissez à l'identifier, vous garantissez en fait qu'elle n'aura pas de représailles?
C'est garanti. C'est ça. Quand je dis qu'il n'y aura pas d'omerta, c'est exactement ça. Ce qu'on veut savoir, puis c'est normal. Écoutez, on a une organisation de 280 000 employés. Il est tout à fait normal que des fois, il y a des choses qui se font soit par des gestionnaires ou peu importe, qui ne sont pas acceptables et on doit le savoir. Et si ça prend un employé qui a du courage, moi, je suis celui qui a réintégré celui qui avait fait dans le cas du ministère de l'Agriculture, vous vous souvenez. Ben, écoutez, c'est la même chose. On va protéger ceux qui veulent nous informer. Lorsqu'on aura vérifié l'information, ces gens-là seront protégés.
Monsieur Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir, Monsieur Lacroix.
Bonne journée. Au revoir. Christian Dubé est le ministre de la Santé et des Services sociaux.